Comme prévu, on va reprendre. Alors, monsieur avait une question suspendue. L'intervention de madame Ducretet fait le lien. Alors, à la demande de certains, sinon à la demande générale, il convenait de rappeler peut-être, parce que cette intervention-là était intéressante, parce qu'on a fait intervenir des praticiens de différentes approches. Mais effectivement, il faut peut-être que chacun reprécise le champ de son intervention, notamment ce qui concerne la méditation et l'hypnose. Et la sophrologie, ce n'est pas du tout le même processus. Alors chacun peut reprendre ses définitions. Méditation, c'est au contraire se concentrer sur des choses, ce n'est pas du tout penser à rien. L'hypnose, ça induit des états de conscience modifiés. Donc chacun va peut-être préciser, parce que les gens ont dit que ça n'a pas été assez repris par chacun, la spécificité de sa pratique. Alors on va faire ça. Hein. Et puis monsieur qui avait bien mérité de poser sa question à la reprise. Garde bien le micro.
Oui, bonsoir. La question est peut-être plus pour les psychologues ou les personnes spécialistes de la méditation. À savoir, sommes-nous nos croyances et où se situe l'illusion ? Sommes-nous nos croyances et où se situe l'illusion ?
Qu'en pensez-vous ? Êtes-vous vos croyances ?
Je...
1-1. Êtes-vous vos croyances ?
Je vous pose la question.
Je vous la retourne.
Non.
Non. On est d'accord. Non, nous ne sommes pas nos croyances. Nos croyances sont... multifactorielles. Nos croyances, déjà, c'est quoi ? C'est nos pensées, c'est ça ? Nos pensées, notre manière de voir les choses, notre manière d'appréhender le monde, par exemple, ou d'appréhender les choses.
Ou ça peut être un attribut spirituel aussi, pour certains.
Oui, ce sont nos pensées.
De fait.
Ce sont nos pensées.
Mais ça non, peut être assujetti au ressenti, pour certains.
Comment ?
Ça peut être assujetti au ressenti, pourquoi
c'est
pas ?
C'est indéniablement assujetti au ressenti, puisque les pensées et les émotions vont de pair. D'accord ? Nos croyances sont le fruit de plein de choses. Hein, en tant que dans la psychologie, c'est le fruit de notre passé, c'est le fruit de notre éducation, c'est le fruit de notre état mental du moment, c'est le fruit de nos schémas inconscients, etc., etc. Nos pensées ne sont pas des faits, et nous ne sommes pas nos pensées. Heureusement d'ailleurs.
Donc c'est on nourrit peut-être sans arrêt une sorte d'illusion.
Mmh. Ah, on est complètement dans l'illusion.
Bien sûr.
Du point de vue bouddhiste, on est complètement dans l'illusion. C'est-à-dire qu'en fait, nos pensées sont des manifestations tout à fait naturelles sur le plan de la méditation. Nos pensées sont des manifestations naturelles de l'activité de notre cerveau. Il ne s'agit pas de vouloir les supprimer, c'est absolument impossible. Moi, je compare toujours les pensées comme les vagues de l'océan. En fonction de votre état émotionnel, elles vont être super violentes ou alors ça va être des petits flottements. Mais il y a toujours des vagues, il y a toujours une superficie et il y a une profondeur. Les pensées, ces vagues, c'est comme les nuages tout à l'heure quand j'ai pris l'exemple. D'accord ? Elles sont indissociables. Les vagues de l'océan sont indissociables de l'océan et de nature, elles sont la même chose. Mais ce n'est pas le fond de l'océan.
Je vous retourne une dernière question. Pour moi, c'est clair. Est-ce que cela peut induire un manque de discernement chez beaucoup de personnes de rester dans cette illusion ?
On interprète les choses en fonction de quoi ? Ça, c'est de la thérapie cognitive, en fait. Hein. On interprète les choses, bien souvent, on n'est pas dans la réalité. Tout ce qu'on vient de dire, là, nos croyances fondamentales, nos schémas, nos distorsions cognitives, etc., c'est comme nos lunettes. On a tous une paire de lunettes, on a tous une manière, finalement, en fonction de ce background, d'interpréter la réalité. Hein ? Là, on a je ne sais combien de réalités différentes sur ce qui même est en train de se dire. Hein ? On a notre propre manière d'interpréter cette réalité et qui est très subjective.
Je vais laisser la parole à d'autres
personnes. Non, mais allez-y.
En fait, ces distorsions sont dues à des biais cognitifs, ce que j'en ai compris.
Comment ?
Les distorsions cognitives sont liées à des biais cognitifs.
C'est plus profond que ça. C'est-à-dire qu'effectivement, oui. On a toute notre histoire, notre façonnement mental, notre éducation, nos schémas, notre enfance, etc. Mmh. Tout ça nous conditionne à une certaine manière de voir le monde et de l'interpréter. Mmh.
Donc nous ne sommes pas nos croyances.
Non.
Okay.
Cependant,
nous ne sommes
là,
pas
je vais...
nos croyances. Alors,
je vais rajouter une petite phrase, comme je la distribue assez souvent. Ça renvoie à la croyance et à cette question-là et au fonctionnement cérébral. Retenez, le cerveau voit plus ce qu'il croit qu'il ne croit ce qu'il voit. Et ça renvoie à la fragilité du témoignage, au besoin de cohérence, à la certitude, aux associations multiples. Et c'est vrai même pour les scientifiques, d'ailleurs. Chose qu'on peut dire souvent... Il y a quand même quelque chose qui organise la pensée et qui est lié à un axe qu'on a. Et les éléments qu'on perçoit, c'est ce qui a été dit tout à l'heure dans le champ visuel. On regarde quelque chose, mais il y a énormément d'éléments qui nous échappent. Quand on décrit une scène ou qu'on témoigne quelque chose, on connaît ô combien la fragilité du témoignage jusqu'à la reconstitution, la création de faux souvenirs parce qu'un élément entraîne un autre, mais on a quand même ce rapport à la croyance. Alors, je pense que, comme d'autres conseils, puisque je ne me départis pas de ma mission, qui est de recadrer, de repréciser les approches, mais tout ce qui a été dit depuis le début, par exemple, bon, redéfinir la conscience, ça fait déjà l'objet d'un café entier. Autre chose, d'entendre quelqu'un qui demande, bon, les guérisseurs, alors je voulais répondre, les guérisseurs, ils guérissent, nous, on n'est que des soignants, on est beaucoup plus modestes là-dessus. Que l'effet placebo, ça veut dire il me plaira et pas ça remplace, donc on voit, ça a été débattu aussi. La question de la relation, le rapport du sujet à ce qu'il observe, à ce qu'il en décrit. Et là, alors, si ça vous intéresse, il y a un numéro de sciences humaines qui doit être assez ancien, qui s'appelle « Peut-on vivre sans croyance ?» Parce que croyance, ça dépasse aussi l'expérience personnelle, puisque les sciences, elles ont été elles-mêmes, c'est toute l'épistémologie, elles ont été pétries des croyances à chaque étape de la réflexion. On parlait tout à l'heure de dualisme et de monisme, c'est la philosophie, c'est la conception portée par la philosophie, par les religions, et à chaque étape. Alors là, moi, ce qui m'intéressait ce soir aussi, c'était de faire intervenir des gens différents sur ces contradictions possibles aussi. Et pourquoi maintenant l'hypnose ? L'hypnose qui, sur le plan d'Assène, maintenant Mesmer, qui a repris d'ailleurs le pseudonyme d'un hypnotiseur célèbre, son baquet du 19e siècle. Le dernier hypnotiseur de théâtre, c'était Majax, les plus jeunes ne l'ont pas connu. C'est tombé en désuétude et Mesmer reprend ça remplit les salles. L'hypnose sur un plan thérapeutique, Freud l'utilisait dans la psychanalyse au début pour s'apercevoir après que ce n'était peut-être pas la peine d'avoir besoin de l'hypnose pour accéder à l'inconscient. Puis maintenant, l'hypnose, tout le monde parle de l'hypnose pour toutes les indications. Alors, il n'y a rien qui vient d'être découvert. Sinon, les corrélations qu'on cherche à faire pour les sciences, de dire est-ce qu'il y a des preuves de ce qui s'y passe.
Alors, permettez-moi de faire un pont pour rebondir vers les spécialistes du cerveau. Peut-on faire un lien entre l'aspect mimétique du cerveau avec les dernières découvertes des neurones miroirs et les croyances sur le phénomène placebo derrière aussi.
Je passe la parole au spécialiste des neurones miroirs.
Alors, les neurones miroirs, je ne sais pas si tout le monde connaît les neurones miroirs. Je vais reprendre un peu ce que c'est. Donc, c'est une équipe italienne qui travaille à Parme, qui est pilotée par un monsieur qui s'appelle Giacomo Rizzolatti, qui, en 89, fait une découverte fortuite, en fait. Il travaillait sur, en gros, les connexions visio-motrices, c'est-à-dire le fait qu'on utilise des informations visuelles pour diriger le geste, et notamment comment est-ce que le geste s'adapte à un objet. Donc, pour ça, il est dans une aire qui s'appelle l'RF5, peu importe, du macaque, et il enregistre les neurones. Et il voit que les neurones, lorsque le macaque va prendre un cacahuète, il s'active. Donc, en gros, il va coder le geste en fonction de la taille du cacahuète. On sait que lorsqu'on veut prendre quelque chose comme une cacahuète, notre geste, il est déjà prêt avec le bon écart de doigt dès le départ du geste. Ce n'est pas à la fin qu'on fait le réglage. On part, on sait très bien ce qu'on va récupérer. Et il est en train d'étudier ça. Il a bien repéré les neurones qui déchargent lorsque le macaque fait le geste pour récupérer la cacahuète. Et à ce moment-là, rentre un expérimentateur qui vient et qui vient se servir dans la boîte à cacahuètes pour lui. Et au moment où l'expérimentateur prend la cacahuète, le neurone qui est enregistré chez le macaque, qui regarde la scène, se met à décharger. Donc, l'histoire du neurone miroir, c'est des neurones qui vont s'activer quand on fait le geste et quand on voit quelqu'un qui fait le même geste. Voilà. Alors, c'est très intéressant au point de vue des corrélations visio-motrices. Et à partir de ça, ça a été un petit peu surinterprété et maintenant, c'est mis à toutes les sauces. C'est-à-dire que maintenant, c'est censé être ce qui s'active en nous dès qu'on voit quelqu'un faire quelque chose. Donc, c'est de l'empathie, c'est le fait que lorsqu'on voit quelqu'un qui souffre, on souffre nous-mêmes, etc., etc. Ça, c'est une vision un peu déformée, trop élargie, parce que vous avez vu qu'au départ, c'est quand même quelque chose d'assez ciblé, hein, qui concerne le système moteur, et qui, en gros, ça c'est à peu près établi, a un rôle important dans l'imitation, dans l'apprentissage de l'imitation. Je vais revenir au tennis, parce que quand Noah a gagné en 83, moi j'étais ado, j'ai passé un temps fou devant la télé. J'ai regardé vraiment Roland-Garros, je regardais du début à la fin, j'adorais ça. Je ne jouais pas au tennis, hein, mais quelques temps après, on m'a passé une raquette. Je suis allé sur un terrain, et les gestes, je les faisais correctement, alors que je ne les avais jamais faits. Mais d'avoir vu tellement longtemps des joueurs les faire, petit à petit, j'ai eu l'apprentissage visuel du système moteur qui me permettait de faire le geste. Donc, à la base, c'est ça les neurones miroirs. C'est des neurones importants dans l'imitation des gestes et dans les apprentissages. Hein. Et le bébé, lorsqu'il se forme, il a besoin de ce système en observant les gens autour de lui qui bougent pour bien programmer ses gestes. Sinon, il ne va pas aller faire tout seul comme ça. Il ne va pas tout de suite prendre la cacahuète. Hein. Pas de cacahuète avant 6 mois.
Ben oui, parce que donc, Laurent Vercueil, lui c'est Noah, c'est pas cacahuète, c'est Noah lui qui l'a plu.
Donc ces neurones miroirs ont-ils un lien avec ce qu'on pourrait appeler les croyances cognitives, pour les distinguer des croyances peut-être spirituelles ou autres?
Sincèrement, je ne pense pas.
D'accord.
Je pense qu'ils sont mis à toutes les sauces. Ouais. Moi, si vous voulez, je travaille sur un article justement pour la fameuse revue Science et Pseudoscience. Achetez tous Science et Pseudoscience chez votre kiosquier. Pour ce mythe des neurones miroirs, où je prends la liste de tout ce dans quoi ça a été impliqué dans le miroir. Et c'est une liste qui est incroyable. Hein. Ça va des troubles de l'érection jusqu'à la parole, l'installation de la parole, enfin tout. Actuellement, je ne crois pas qu'il y ait une seule activité humaine où on ne met pas en jeu des neurones miroirs. Donc voilà, les neurones miroirs, c'est vraiment ce que j'ai dit. On pense que chez l'homme, il y en a, mais on ne les a pas trouvés encore. On ne sait même pas s'il y en a chez l'homme, hein, les neurones miroirs. Hein. Ça reste théorique, ce que je vous ai dit. Hein. On les a trouvés chez le macaque. On sait que quand on met quelqu'un dans une machine type IRM qui réalise des images du cerveau en train de fonctionner, eh ben on peut voir des régions qui s'activent quand le sujet fait le geste, qui sont les mêmes régions qu'il activerait s'il est en train de faire le geste, quand il observe quelqu'un faire le geste, s'il le fait. Donc on a des idées que ça puisse exister, en tout cas c'est les mêmes régions, mais localement un neurone qui décharge de la même façon, ça on n'a pas encore vu hein, chez les hommes.
Merci.
Bonsoir. Alors moi j'ai une question peut-être un peu technique. Nous savons que depuis des années que le cerveau utilise des aires spécialisées pour fonctionner. Et nous avons entendu parler il y a quelques années de personnes qui ont de l'hydrocéphalie, je pense que vous savez ce que c'est, qui ont un système de fonctionnement qui est tout à fait normal. J'aimerais savoir comment c'est possible. Bon, je pense que c'est un lien avec la neuroplasticité. Mais j'aimerais savoir pourquoi c'est possible en sachant que le cerveau a des aires spécialisées.
Oui, je vois très bien l'article dont vous parlez. Hein. C'est un article qui a été publié dans le Lancet par des collègues marseillais, hein, qui chez quelqu'un qui, je ne sais plus quelle était la profession, mais quelqu'un qui est inséré, qui faisait son travail normalement. Ils sont tombés par hasard, je ne sais plus pourquoi est-ce qu'il avait une IRM, il y avait une raison, hein, IRM du cerveau, ils se sont rendus compte qu'il y avait une hydrocéphalie majeure. Hydrocéphalie, c'est de l'eau hein, en excès dans le cerveau. Hein. Mais là, c'était tellement important que le cortex était une fine bande, vraiment... vraiment, les images qui ont été publiées sont très impressionnantes. Hein. On se demande comment il est possible de fonctionner avec si peu de cortex. Alors, d'ailleurs, oui, vous avez raison, c'est le fait que le sujet s'est développé avec ça. On sait hein, que la plasticité neuronale, elle est majeure au cours des premiers temps de l'existence. Hein. Donc, le nourrisson, le cerveau est taillé pour construire des circuits, pour faire les apprentissages. Donc, il peut se relever d'accidents dramatiques, hein, notamment à la naissance. Des grandes souffrances cérébrales à la naissance, des AVC massifs, peuvent être tellement compensés par la plasticité cérébrale qu'au final, on voit rien. Là, à ce point-là, c'est vrai que tout le monde était un petit peu bée. Maintenant, comment c'est possible à ce point-là ? Là, je pense qu'on est dans les limites de ce qu'on peut expliquer. Hein, une fois que j'ai dit plasticité dans le détail, et c'était difficile d'en savoir plus chez ce patient.
Dernière question. Est-ce que ça peut avoir un rapport avec la théorie holographique du cerveau de Pribram ?
Alors là, je vais dans notre difficulté de vous répondre parce que je ne connais pas du tout la théorie holographique du cerveau de Pribram.
Alors, Karl Pribram était en fait un neurochirurgien de mémoire qui a compris, enfin qui a compris, qui a donné une théorie comme quoi le cerveau fonctionnait sur un système holographique qui est ni plus ni moins qu'électromagnétique. Bon, après, d'ici à l'heure, faut vous en dire plus, c'est pour ça que je vous pose la question.
Oui, si vous voulez, moi je me méfie beaucoup dès qu'on utilise des termes qui sont un peu des termes gâchettes, genre quantique. Voilà, donc oui, ok, ça doit être quantique ce truc, hein, je pense.
Ça sent minutes.
Pouvez-vous nous parler de la gestion de la douleur dans vos différentes disciplines ?
Alors moi, je vais en parler, si vous voulez, dans le cadre de l'hypnose. Alors juste pour répondre à une question qui était posée à la pause sur c'est quoi l'hypnose ? L'hypnose, en gros, repose sur une série, une induction au début, c'est-à-dire le fait de faire en sorte que le patient se détende, donc lâche prise, la transe, qui est le moment où le patient a lâché prise et finalement il y a une dissociation entre le corps et l'esprit, d'accord, c'est le corps est installé confortablement. Pour prendre un exemple d'auto-hypnose que vous avez probablement tous déjà eu au moins une fois, si vous regardez un bon film, bah vous êtes bien installé dans votre fauteuil de cinéma ou dans votre canapé et votre esprit est dans le film. Vous vivez le film, vous oubliez tout ce qui est autour de vous. D'accord ? Donc c'est ça la dissociation. Donc ça, c'est la transe qui est plus ou moins profonde. Et donc ça dépend, pardon, ça dépend des patients qui peuvent être plus ou moins hypnotisables. Alors personnellement, je pense que tout le monde est hypnotisable à des degrés variables, sauf celui qui ne veut pas, du coup, ou celle qui ne veut pas. Après, ce qui peut changer, c'est le type d'hypnose à utiliser. On a des hypnoses plutôt permissives de type ericksonienne, et puis qui peuvent ne pas marcher chez certains patients, c'est-à-dire que on laisse un peu le patient, on guide le patient, on lui laisse un peu faire son histoire, et il y a des patients qui ne répondent pas du tout à ça, il faut être beaucoup plus directif et ne pas laisser le choix au patient dans ce qu'il va visualiser, en fait. Si vous lui laissez le choix, il est perdu. Mais à partir du moment où... alors ça, il faut tester la première fois. Alors c'est vrai que le plus souvent, les patients répondent à l'hypnose ericksonienne, donc on est plutôt permissif dans la façon dont on parle et dont on dit les choses. Mais après, finalement, avec le temps, tout le monde est hypnotisable. De manière plus ou moins... voilà. Et puis après... durant cette transe, il y a les suggestions. Alors, je vais revenir sur la douleur. Et il y a les suggestions post-hypnotiques, c'est-à-dire ce qu'on dit au patient pendant la séance et pendant les suggestions, pour que le patient, a posteriori, tout seul, puisse faire de l'auto-hypnose, qui est utilisée dans la douleur, pour, via ces suggestions, réactiver ce qu'il a vécu pendant la séance. Voilà, ça c'est sur le... Je ne sais pas si j'ai été assez clair sur le déroulement de l'hypnose. Après, par rapport à la douleur, on a différents types d'hypnose. Alors on peut, par exemple, pour un patient lambda, lui faire croire que son membre ne ressent plus rien. D'accord ? L'expérience a été faite à Bicêtre, au Kremlin-Bicêtre à Paris, où on a pris un patient, on a mis un oscilloscope, donc on met deux capteurs, on lui pince la cuisse, donc forcément, il y a une réaction de douleur, il y a une réaction sur l'oscilloscope, et au fur et à mesure de la séance, on lui suggère que son membre est paralysé, ne ressent plus rien de ça. Et au fur et à mesure de la séance, on le pince et il n'y a plus de réaction. D'accord ? Donc c'est, voilà. On a la même chose pour... Alors, ils ne font pas d'hypnose, mais c'est sur le même principe. Les personnes qui vont marcher en Inde sur les braises, il n'y a aucune réaction de douleur. Et puis encore, il n'y a pas du tout de réaction cutanée. Vous pouvez... ça a été aussi testé. Vous prenez une pièce, vous la chauffez, vous expliquez au patient en hypnose que sa peau est insensible et qu'il ne ressent rien. Vous lui posez la pièce sur la peau, il n'y a aucune marque. Voilà. Donc, voilà, c'est l'inhibition, d'où le contrôle inconscient de la douleur. Donc, on a ce principe-là pour la douleur. Et puis, on a des... alors, il y a d'autres méthodes en hypnose qui sont de l'hypnose, là, pour le coup, conversationnelle. C'est-à-dire qu'on fait lâcher prise au patient. Et une fois qu'il a lâché prise, une fois qu'il est en transe, donc il est vraiment qu'il y a cette dissociation, on lui fait matérialiser sa douleur et on la fait transformer au fur et à mesure de la séance pour passer de quelque chose de désagréable à finalement quelque chose d'agréable ou qui disparaît. Voilà, ce qui s'appelle la réification en hypnose. Donc, voilà. Et donc après, en fonction du type de douleur, on peut être amené à faire plusieurs séances, soit parce que les douleurs sont différentes, soit et donc plus spécifiques, soit pour apprendre les différentes techniques au patient, pour qu'il puisse l'utiliser. Après, le but, c'est que le patient, dans le cadre de la douleur chronique notamment, c'est qu'il soit autonome et qu'il puisse l'utiliser sans avoir besoin de consulter à chaque fois.
J'ai une question.
Sur le plan de la méditation, donc effectivement, la méditation a montré de nombreux bienfaits sur la prise en charge des douloureux chroniques. Il y a même certains programmes qui sont élaborés par rapport à cet état de douleur, mais la démarche, elle est complètement différente. Il ne s'agit pas de... Je veux dire, ce n'est pas une démarche initialement de soins. J'imagine un peu la démarche de soins, c'est-à-dire qu'il y a un problème et on va mettre en face une technique, une méthode pour soulager ce problème. L'approche de la méditation, ce n'est pas celle-ci. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure avec mon collègue en mangeant, l'idée c'est finalement quel est le dénominateur commun entre tous ces problèmes. C'est une personne qui souffre. Et finalement, la méditation va agir sur le fonctionnement de cette personne. C'est beaucoup plus profond. On ne va rien induire, on ne va rien modifier, on ne va rien vouloir changer. Rien du tout. Il s'agit simplement de... La personne va apprendre, donc c'est un véritable apprentissage. Et donc, je finis de répondre à la dame de tout à l'heure pourquoi il faut méditer tous les jours, parce que c'est un apprentissage. Tout apprentissage demande du travail, de la persévérance, de la régularité, de la discipline. La méditation, elle est en plein là-dedans. Parce que qu'est-ce qu'on va faire ? La personne fait, elle n'a pas de conscience modifiée, elle est complètement maître, pleine et entière de ce qui se passe en elle. Elle va tout simplement, par la méditation, changer son rapport à l'expérience, son rapport aux autres, son rapport à la souffrance. Et donc, ce n'est pas que la souffrance, la méditation ne va pas faire que la souffrance soit moindre, mais tout simplement, vous n'allez pas la vivre de la même manière. Voilà, c'est une perspective différente. Je ne sais pas si j'étais claire.
J'ai une question.
Alors, je peux répondre dans le cadre de ce que je pratique, de la kinésiologie par exemple. Là, on a une démarche un peu différente dans le sens où on va essayer d'approcher la cause. Donc, effectivement, la proprioception, c'est un peu notre l'examen du résultat de ces sens et de ces capteurs qui nous donne quelque chose essentiellement en direction de la posture, puisqu'à la base, c'est vraiment calculé sur la structure des muscles, des os et... Voilà, de comment on tient debout et en équilibre. La kinésiologie, en France, c'est la traduction française de cinésiologie, mais de kinésiologie en anglais, où effectivement on est sur la science du mouvement et le langage du mouvement. Donc on est quelque chose de beaucoup plus près de la structure et de la réalité physique, physiologique. La nociception, c'est finalement qu'une forme de proprioception bien particulière. Et nous, on va utiliser justement des tests particuliers pour approcher quelles sont les causes qui viennent solliciter les capteurs qui vont entraîner cette nociception. C'est-à-dire finalement qu'une proprioception d'un type un peu particulier. Donc c'est plus un outil de recherche où on va dans la direction de la cause, ce qui aboutira de toute façon à avoir effectivement une mise en lien ou en apporter des ressources ou de mettre le patient en lien avec des ressources. Mais dans tous les cas, on va essayer de voir sur quelles ressources il va falloir agir pour qu'on puisse diminuer ce seuil de proprioception et de nociception donc.
Alors, moi, en sophrologie, je vais me retrouver un peu entre l'hypnose et la méditation, puisque, comme je vous le disais en introduction, hein, on a en sophrologie 12 degrés qui ont été établis par M. Caicedo, et on part de la relaxation, ce que beaucoup de gens connaissent, donc jusqu'à la méditation. On a parlé tout à l'heure de sportifs de haut niveau qui effectivement s'entraînent, et là effectivement ça va être la répétition et la visualisation des gestes, mais ça peut être aussi le même travail qu'on va faire pour passer un examen. C'est-à-dire qu'on disait tout à l'heure que si on s'est pas entraîné pour faire du saut à la perche, ben on n'y arrivera pas seulement avec l'hypnose ou la sophrologie. Il faut effectivement les examens, pareil, avoir travaillé, parce que sinon, il n'y aura pas de miracle. Voilà. Donc, on dit toujours qu'il faut quand même qu'il y ait quand même 80% de chances de réussite et que la sophrologie va pouvoir vous aider à accéder à ça. Alors, quant à la douleur, c'est pareil, il y a une certaine de mise à distance des événements et donc de la douleur. Cette douleur, de la même manière qu'en méditation, eh ben on va essayer de la transformer, de ne pas se l'approprier et essayer de se retrouver soi-même. Qu'est-ce qu'on est ? Est-ce qu'on est seulement la douleur qui nous prend et qui nous embête toute la journée ? Ou est-ce qu'on est autre chose et que cette douleur, ben on vit avec, mais elle est un petit peu à côté de nous, finalement. On prend beaucoup de distance par rapport aux événements. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais est-ce que vous attendiez ?
Juste une petite chose par rapport à l'hypnose. Il y a un but thérapeutique derrière, enfin, sauf pour Mesmer, mais il y a un but thérapeutique derrière, et donc on cherche à suggérer des choses dans le sens qui nous intéresse pour arriver au but voulu en termes de thérapeutique. Reste qu'on induit, on guide le patient, on dirige le patient vers ce qu'on... Alors parfois... Ça marche, ça ne marche pas, et c'est un peu ce que je vous disais sur la réification. C'est lorsqu'on transforme la douleur, on le fait de manière... on communique avec le patient, on échange, c'est verbal. Mais juste pour vous donner un exemple, c'est pour ça qu'en France, l'hypnose n'est pas utilisée dans les enquêtes, par exemple. Parce que si vous avez quelqu'un qui assiste à un braquage, une fuite, etc., si vous le mettez en hypnose pour qu'il vous décrive la scène, si vous le mettez en hypnose et que vous le laissez décrire la scène, il va décrire ce qu'il a vu en situation réelle, ce que j'expliquais tout à l'heure, sur le mode de fonctionnement de l'hypnose. Donc il est en transe et il va raconter. Mais si dans la façon de demander les choses, vous induisez une réponse, il vous dit « bah oui, je les ai vus partir okay. ». Et si dans le cadre de l'hypnose, en transe, vous lui demandez si le braqueur est parti en moto ou en 4x4 et qu'il est parti dans une berline, il ne pourra plus vous répondre « berline ». Parce que vous avez déjà induit la réponse. Voilà. Donc, il faut rester ouvert dans ce cas-là. Et le problème, c'est que là, ça dépend de la personne qui va parler, de la personne qui va faire l'hypnose, de ne pas induire une réponse voulue. Bah, sauf dans le cadre du soin, on sait ce qu'on veut.
Je voulais juste terminer sur... vous évoquiez la question des différentes techniques et de leur pratique dans le cadre de la prise en charge de la douleur. Pour ce qui concerne la technique de la cohérence cardiaque, cette technique, c'est une technique qui passe par le contrôle du rythme cardiaque pour amplifier la variabilité du rythme cardiaque. Mais l'objectif n'est pas... directement, l'intérêt, je dirais, n'est pas directement lié au fait qu'on amplifie les variations du rythme cardiaque moment après moment, hein, au rythme de la respiration. L'intérêt, c'est qu'on stimule un nerf en faisant cela, qui est le nerf vague. Et ce nerf vague, il se trouve qu'il est à la fois... c'est un nerf moteur pour nos viscères, mais c'est aussi un nerf sensitif. qui transmet beaucoup d'informations sensorielles de nos organes à notre cerveau, dont parfois quelques informations qui peuvent être de nature nociceptive, de douleur. Et donc ce nerf vague, dans sa branche descendante, motrice, il y a maintenant une quinzaine d'années, on a découvert une nouvelle propriété, de nouvelles fibres de ce nerf vague, qui sont des fibres anti-inflammatoires, qui contrôlent notre système immunitaire et qui modèrent l'inflammation, l'emballement de notre système immunitaire. Or, la douleur est de nature inflammatoire très souvent. Et d'ailleurs, quand on a mal, on prend des anti-inflammatoires. Et l'idée de la cohérence cardiaque, du travail répétitif et de l'entraînement de cette cohérence cardiaque a pour objectif de renforcer l'activité du nerf vague et notamment de renforcer cette dimension, cette activité anti-inflammatoire naturelle du nerf vague qui va restaurer l'équilibre du système immunitaire et petit à petit moduler la douleur. Or, ce travail, les chercheurs ont montré que faire cela, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Il faut un apprentissage et un entraînement quasi quotidien. Et les effets sont différés. Les effets commencent à apparaître au bout de un mois, deux mois, trois mois. Et du coup, cette technique est intéressante pour la douleur chronique, pour prendre en charge la douleur chronique en lien avec des traitements antidouleurs. Et cette technique permet de réduire la prise de médicaments antidouleurs et petit à petit, au bout d'un certain temps, l'effet anti-inflammatoire commence à apparaître et la douleur diminue. Nous, on a l'expérience, donc je travaille avec en gastro-entérologie et notamment dans le problème de la douleur digestive est un problème majeur en gastro-entérologie. Et je travaille avec au CHU de Grenoble avec le professeur Bonaz qui est spécialisé dans ces pathologies-là. Et on a pu, donc on pratique la cohérence cardiaque avec certains patients, l'hypnose avec d'autres. Et on a pu faire quelques essais cliniques de stimulation directe du nerf vague pour renforcer cette activité anti-inflammatoire. Donc, tous les patients n'ont pas pu être élus pour cela. Hein. C'était une étude pilote pour l'instant. Un tout petit nombre de patients ont pu bénéficier de cette technique puisqu'il faut implanter un stimulateur sous chirurgie. Un stimulateur et une électrode placée autour du nerf, donc c'est quelque chose quand même d'invasif. Donc on l'a proposé dans des situations de pharmacorésistance, etc. Et ce que l'on a pu observer maintenant avec presque 6 ans de recul par rapport au premier patient, ce qu'on a pu observer, c'est que très rapidement après la chirurgie et la mise en route du stimulateur, c'est les douleurs digestives qui se sont calmées. Et puis, dans les semaines et les 3 à 6 premiers mois de stimulation continue, le nerf vague reprend sa tonicité, sa puissance, et l'effet anti-inflammatoire s'exprime. Donc, c'est une autre façon, finalement, d'aller contrôler la douleur en contrôlant l'inflammation. Et la pratique de la cohérence cardiaque dans la douleur chronique est intéressante de ce point de vue-là. Ensuite, en douleur aiguë, par exemple, vous avez une brûlure et vraiment, c'est une douleur intense, pratiquer la cohérence cardiaque peut être intéressant, mais je dirais que ça pourrait se rapprocher de la sophrologie puisqu'on va travailler sur la respiration à un certain rythme respiratoire d'environ 6-7 cycles par minute. Sur une expiration plus longue que l'inspiration pour stimuler le nerf vague, puisque c'est à l'expiration que ce nerf vague est stimulé. Et en faisant cela, on va à la rencontre de la douleur. Au lieu de l'éviter, en se crispant, en disant « Oh là là, je voudrais que ça s'arrête, j'ai mal », en respirant sur une respiration de relaxation, on va à la rencontre de la douleur et on va quasiment converser avec elle, la regarder, comment elle est. Comment elle est étendue? Est-ce qu'elle est grande? Elle est petite? Est-ce que ce sont des pics? Est-ce que ce sont des montagnes? Est-ce qu'elle est rose? Elle est bleue? Elle est jaune? Et quand on fait cela, on se rend compte que la douleur, on prend conscience que la douleur est en permanence variable, mouvante. Elle n'est jamais aussi aiguë que ce que l'on l'imagine. Et en faisant cela, petit à petit, elle s'atténue. Elle devient supportable. On fait avec. Et elle peut même se calmer. Voilà pour
ce qui est sur la douleur aiguë, ce qui est l'inverse de l'hypnose, parce qu'en hypnose, lorsqu'un patient arrive avec une douleur aiguë, donc le patient est souvent très énervé, avec justement un rythme cardiaque très élevé, une façon de parler très rapide, voire très angoissé. Et du coup, à l'inverse, en hypnose, dans ce cas-là, on se cale sur le rythme du patient. C'est-à-dire qu'on va parler aussi vite que lui, accélérer les choses pour justement là se calquer sur la douleur et au fur et à mesure ralentir le rythme de la voix, baisser l'intonation et le patient va suivre.
Je voudrais savoir ce que vous pensez de la déclaration de Stephen Hawking, là, ce très grand savant, et d'autres d'ailleurs, qui avant de mourir avait alerté sur le développement de l'intelligence artificielle qui, un jour, pourrait concurrencer le cerveau, voire même dépasser ses capacités, disait-il. Et est-ce qu'un cerveau artificiel pourrait méditer, madame ?
C'est quoi le cerveau artificiel? Qu'est-ce que vous entendez par... Qui c'est qui est?
Je la repose alors. Parce que qu'est-ce que vous pensez donc du développement de l'intelligence artificielle? Et est-ce que vous pensez qu'un jour, elle pourrait concurrencer les capacités du cerveau biologique? Ce dont alertent certains très grands savants, dont Stephen Hawking. Et la deuxième question, c'était, si c'était le cas, un cerveau, un super Big Free, est-ce qu'il peut méditer, un cerveau artificiel?
Alors, la première question m'appartient, la première partie de la question appartient plus aux chercheurs, je pense, aux neuros.
Moi, je peux répondre en tant que médecin, mais l'intelligence artificielle...
Et la deuxième, je répondrai.
Va être une aide. D'accord, mais en médecine, forcément, avec les années, l'intelligence artificielle va être une aide parce que l'ensemble des symptômes, la machine vous sortira la pathologie pour laquelle il y a un cas pour 50 millions d'habitants auquel vous n'allez pas penser, du coup, qui est peu probable, mais voilà, elle va nous aider là-dessus. À mon avis, jamais l'intelligence artificielle ne remplacera le feeling, le ressenti, et puis l'intelligence artificielle aura du mal en médecine, il y a un ressenti. Parfois, vous voyez des patients, vous dites, mais non, ce patient, il a quelque chose. Quoi. C'est comme ça, ça ne s'explique pas. C'est du ressenti avec la pratique, avec ça. On va se dire, d'accord, il y a des symptômes, en fait, là, il n'y a rien, ou là, non, il y a quelque chose. J'avais un chef de service des urgences quand j'étais interne. Et un jour, il voit un patient qui lui décrit des symptômes assez incohérents. Bon, c'est un médecin qui avait travaillé très longtemps dans les pays sous-développés, en Afrique, Moyen-Orient, etc., il y a 30 ans. Et donc, du coup, qui faisait de la clinique pure. Et il appelle le radiologue. Il lui dit, écoute, fais-lui un scanner, je pense qu'il a une dissection aortique des deux côtés. Donc c'est vraiment un dédoublement de la paroi des deux côtés au même moment. Et le radio lui dit, attends, t'es gentil, mais c'est pas possible. Quoi. Il lui a dit, écoute, tu le fais. Bon, entre chefs de service, ils sont pas trop... voilà, il l'a fait. Autant dire que n'importe quel interne qui aurait demandé n'aurait pas eu. Et il y avait une dissection aortique des deux côtés. Parfois, c'est du feeling. l'intelligence artificielle là-dessus, pas sûr que ça agisse beaucoup.
L'intelligence artificielle a dépassé les capacités humaines depuis longtemps, hein, dans beaucoup de domaines. Beaucoup de domaines. Et notamment les radiologues, par exemple, sont très menacés par les progrès qui font que, en gros, les diagnostics sur imagerie sont bien mieux faits par l'intelligence artificielle que par l'œil humain. Hein. Et notamment grâce aux réseaux de neurones. Vous voyez qu'on retombe un petit peu sur nous, pas, parce que les réseaux de neurones sont des... Alors, moi, je travaille en neurophysiologie et donc je travaille beaucoup sur l'électroencéphalographie, donc le recueil d'activité du cerveau, qui est un domaine aussi très investi par les réseaux de neurones. Et on a travaillé avec des collègues du CEA sur les signaux électriques et avec des réseaux de neurones, et notamment avec un système qui est passionnant et qui se développe beaucoup. Et je finirai par une étude qui m'a impressionné par ailleurs, qui est en gros donner des tâches divergentes, opposées, à deux réseaux de neurones. Donc, c'est-à-dire qu'on met deux machines et on leur demande de faire des tâches qui sont en gros, une essaye de tromper l'autre. Et en faisant ça, on arrive à faire susciter des activités qui sont très proches d'activités humaines. Alors, ce type de processus, ça a été utilisé notamment par des chercheurs de Google qui ont pris trois ordinateurs, donc trois réseaux de neurones en pratique, hein, en disant, voilà, il y en a deux qui vont parler ensemble, vous communiquez ensemble, mais de manière à ce que la troisième n'arrive pas à comprendre ce que vous dites. Ça, c'est des tâches. Donc chaque réseau de neurones est concentré sur sa tâche. Il faut qu'il arrive à communiquer avec l'autre en évitant que le troisième, dont la tâche est de comprendre ce que les deux autres disent, comprenne. Et ben, très vite, ils ont débranché les deux ordinateurs parce que ça marchait tellement bien qu'ils ne savaient pas du tout ce qu'ils se disaient. Et ils ont pris peur. Et moi, dans mon domaine, dans le domaine de l'EEG, moi, je suis un signal électroencéphalographique. Donc, signal, voilà, c'est des écrans avec des signaux qui paraissent anarchiques comme ça. Hein. Je suis incapable de dire qui est la personne qui est derrière. Je peux repérer des anomalies, des pathologies. Il y a une étude qui est sortie l'an dernier hein, dans Scientific Report, donc un bon canard de science, qui a montré que des réseaux de neurones pouvaient dire si c'était un homme ou une femme. Le sexe de l'EEG, moi, je ne pensais pas qu'on puisse dire sur un électroencéphalogramme si c'était un homme ou une femme. Donc, c'est-à-dire que, en gros, c'est là où c'est passionnant, c'est que l'IA arrive à voir des choses qu'on ne voit pas. Et on ne sait pas comment est-ce qu'il les voit. Donc ça, c'est passionnant. Donc voilà. Alors ensuite, est-ce qu'il faut s'en effrayer, débrancher les ordinateurs dès qu'on prend peur? Ou est-ce que voilà, il faut accompagner, surveiller, être vigilant Bien sûr.
Juste parce que mon voisin aime le tennis. Il y a une étude qui est sortie il y a quelques semaines, quelques mois, suite dans le cadre de l'Open d'Australie, où l'intérêt de l'intelligence artificielle, c'est de pouvoir analyser beaucoup de données, beaucoup plus vite que ne pourrait le faire l'homme. Et les matchs de tennis pendant l'Open d'Australie ont été analysés uniquement ceux de Federer, Nadal, Djokovic. Et Djokovic, qui a un jeu qui est un peu plus varié, la machine n'arrive pas à caler les choses dessus. Par contre, Nadal et Federer, en analysant le jeu, la machine est capable de prévoir, en fonction de la situation du match, du nombre de jeux joués, du type de service, et si le joueur a joué un coup droit ou un revers, où est-ce qu'il va placer la balle sur le coup d'après. Voilà. Pour autant, la machine ne jouera pas au tennis.
Ma question, c'était quand on en était sur la douleur. Je voulais savoir si vous comprenez comment fonctionnent les coupeurs de feu, parce que je sais que dans les services de grands brûlés, on utilise leurs services. Moi, je ne comprends pas comment ça marche.
Sur le même principe que l'hypnose, sans que ce soit de l'hypnose, c'est-à-dire que le principe, c'est de suggérer autre chose au patient. Quel que soit le moyen, hein, que ce soit une imposition des mains ou autre. Et Et ça marche d'autant mieux chez l'enfant et le tout petit, puisque il n'y a pas la barrière du il faut que je comprenne ce qui se passe.
Alors,
C'est une question. C'est une question. Moi, je connais effectivement toutes ces expériences-là parce que je baigne personnellement dans un milieu scientifique avec un fils qui est complètement dans, justement dans ce système-là et qui me raconte un peu tout ça. En mangeant, et j'avoue que j'écoute plus ou moins, enfin, en tout cas, c'est extrêmement complexe. Et effectivement, ça fait un peu frémir dans la mesure où l'intelligence artificielle pourrait, moi, je le pense, effectivement, avoir supplanté l'activité, du moins avoir la même activité cérébrale. Je ne sais pas ce que pense le neuro, mais en tout cas, effectivement, d'avoir une même puissance. Voilà, par tout ce qu'on sait sur ça. En revanche, est-ce qu'il peut méditer ? Je ne pense pas. Pourquoi ? Parce que là, on parle d'activité cérébrale, on parle d'intelligence, on parle de certaines formes de conscience qui sont la conscience primaire, c'est-à-dire la conscience perceptive, et on parle de la conscience réflexive. Mais la conscience pure, qui est fondamentale, donc qui est le but finalement qu'on cherche à atteindre dans la méditation, elle est au-delà de cela. Et c'est ce qui fait vraiment la spécificité de l'être humain. C'est juste un avis. Donc on peut effectivement imiter l'activité cérébrale, mais dans ce cas, ça veut dire qu'en tant qu'être humain, on ne se limite peut-être pas qu'à une activité cérébrale. C'est une question.
Petit tour de conclusion pour tous nos intervenants. Ma tour, on a l'habitude de le faire, mais qu'il va être à l'heure de s'arrêter, donc on ne va pas prendre d'autres questions. Que chacun puisse poser sa conclusion rapide. Donc, toi, tu as donné la tienne. Elle a donné la sienne. Service, retour.
Bon, ben, il faut conclure rapidement. Une conclusion qui commence par la phrase d'introduction que je donne à mes étudiants de première année dans mon cours de physiologie en psycho. C'est que le cerveau, sans le corps, il ne peut rien faire. Son activité, elle vient de toutes les informations qui lui remontent du corps. Donc ça, on peut méditer ça ce soir.
Je suis complètement d'accord avec ma voisine. Je peux, pour rebondir encore un petit peu sur cette histoire d'intelligence artificielle. Intelligence artificielle, c'est un peu ronflant, hein, on peut dire informatique, hein, ou automatisation, ce que vous voulez. La question un petit peu par rapport à la méditation, c'est est-ce que finalement un robot a une petite voix dans sa tête ? Et probablement que non, il n'a pas de petite voix dans la tête. Et je suis parti un petit peu sur l'histoire de dualisme, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une conscience qui contrôle le cerveau, etc. Je ne pense pas. Mais le fait est que c'est notre expérience, en fait. Nous, on fait l'expérience depuis que notre conscience a émergé, qu'on a dans la tête des choses qui ne sont pas devant nous. Et qu'on peut très bien dire « oui, oui, maman, oui, oui, j'y vais », et puis penser « non, 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 non ». Et le robot, il ne fait pas ça. Le robot, s'il dit « oui, il fait derrière, il va faire ». Il va pas le mensonge, hein, ou le fait qu'on arrive à dissocier complètement ce qu'on vit, ce qu'on manifeste et ce qu'on a dans la tête, ça c'est proprement humain. Donc, et ça, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles on ne peut pas méditer quand on est un robot, parce qu'on n'est pas en train d'avoir une deuxième vie séparée qui va créer le dualisme de robot en se disant « oh là là, j'ai les circuits, ok, mais je dois avoir une conscience qui contrôle ces circuits, c'est pas possible autrement ».
Non, en conclusion, toutes ces méthodes, là, enfin, aujourd'hui, scientifiquement parlant, on sait que ça marche, on peut prouver que ça marche, qu'il y a des IRM fonctionnels qui montrent pourquoi et comment ça marche. Après, il faut accepter d'essayer, d'y croire, ou, voilà, d'en faire l'expérience. Il faut s'approprier la méthode, et c'est vrai que ça passe par l'entraînement, quoi. Moi, ça fait maintenant 6 ans que je fais de l'hypnose. Au début, faire de l'auto-hypnose, c'était
un concept assez technique. Aujourd'hui, il me faut 30 secondes, quoi. Donc, c'est la question de se pose plus. Donc, il faut se l'approprier. Et c'est vrai pour toutes les méthodes. Il faut, après, certaines correspondent plus aux uns ou aux autres. Voilà. Mais ça reste une très bonne alternative aussi ou un complément à d'autres thérapeutiques, qu'elles soient allopathiques ou autres.
Pour ce qui me concerne, ben voilà, je commence à avoir aussi un petit peu de kilomètres depuis plus de 20 ans. Passer le temps à chercher les causes et à trouver les effets ou essayer de réellement suivre ces lois de Claude Bernard qu'on a voulu nous inculquer à la fac. Aujourd'hui, je suis un petit peu plus dans l'attente du résultat et puis de simplement, un peu béatement, me rendre compte de ce qui se passe. Et ce qui me réjouit le plus en utilisant la technique que j'utilise en particulier, mais pas seulement, c'est d'arriver à trouver quelque chose que ni moi ni mon patient ne connaît. Et dès l'instant où il y a cette espèce de justesse-là qui arrive, c'est de là où sans doute va sortir la guérison, non pas de ma tête ni de la sienne, mais effectivement de la rencontre qui s'est passée là et des forces de guérison qui vont s'enclencher. Donc ce n'est pas moi qui guéris, c'est l'autre sans doute qui guérit effectivement. Mais ce qui me réjouit le plus, c'est effectivement arriver un peu comme Sherlock à trouver quelque chose qui n'était pas prédit ni par l'un ni par l'autre. Alors que ce soit détenu par la conscience de l'un, la conscience de l'autre ou une extra-conscience, j'en sais absolument rien. Mais dans tous les cas, c'est juste les fruits de la clinique qui nous renseignent là-dessus. Et je dirais petit à petit, je m'évade un petit peu de la dualité science hors science, thérapie formelle, académique, même si je les enseigne. Et puis ces sciences thérapies alternatives, différentes, parallèles parfois. Moi, je pense qu'elles vont se rejoindre un de ces quatre, parce qu'effectivement, il y a bien des choses qui appartiennent aux deux mondes. Et la seule chose, c'est effectivement peut-être de regarder avec ses yeux d'enfant à un moment donné quelque chose qui vient d'un de ses ou, mais qui peut se vérifier même si on n'a pas la compréhension. Donc je pense qu'on est juste à l'aube de comprendre tout ce qui va nous arriver. Même si on arrive à disséquer les électroencéphalogrammes, nous, on n'arrivera tout juste pas à disséquer un circuit nerveux ou un pouls chinois. Par contre, effectivement, ben voilà, 5000 ans d'existence pour un, 200 ans de médecine moderne pour l'autre. Il y a des concurrences qui s'affrontent comme cela. La seule chose, c'est le bien-être du patient derrière. Et puis, c'est juste ben voilà, ces petits yeux qui s'éclairent dans l'œil de l'enfant qui vient de prendre conscience de quelque chose ou... classiquement assez égoïstement, nous aussi, quand on a réussi à mettre l'autre sur la voie de la guérison. Merci.
Je suis tout à fait d'accord. Ça, effectivement, le rapport avec les autres, c'est quelque chose d'important. Et je resituerai la sophrologie avec trois mots qui sont définis. C'est la conscience, ensuite l'harmonie entre le corps et l'esprit, et puis l'espoir. L'espoir, c'est aussi la confiance qu'on met dans la vie, quoi.
Donc, en ce qui concerne la méditation, c'est au-delà, ce n'est pas vraiment une technique thérapeutique. Elle est thérapeutique par conséquence, mais son but, comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est pas ça. C'est effectivement un entraînement pour se connaître profondément et aborder les choses différemment et trouver un état qui est un état plus de sérénité, donc qui n'est pas de bonheur ni de malheur, mais qui est un état de sérénité. Un petit mot quand même, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup parlent de méditation, beaucoup pratiquent la méditation. Je ne suis pas sûre qu'ils aient une vue bien claire de ce que c'est. La méditation, on travaille sur la conscience, hein, esprit, conscience, dites ça comme vous voulez. On ne fait pas n'importe quoi, ça peut être dangereux. Voilà, donc restez quand même vigilants. Et puis c'est pas une voie non plus où il y a des croyances, on croit en rien, pas besoin de croire à quoi que ce soit. C'est juste de vous asseoir et de l'expérimenter par vous-même et de croire ce que vous y trouvez.
Juste un tout petit mot pour vous dire que le prochain café sera un cinéma dont on ne connaît pas encore le film le 7 avril. Et puis le 9 mai, un café sur la viticulture face aux défis actuels de réchauffement climatique, d'environnement, etc., et aussi économique. Donc merci d'être venu. Et je vous promets qu'avant la fin de l'année, on réorganisera un café donc, comme celui de ce soir avec des intervenants qui veulent bien revenir. Merci.